Retransmission. L'émission qui donne à entendre des projets sonores venus d'ici et d'ailleurs. Des créations indépendantes sur des enjeux de société à découvrir un jeudi sur deux à 18h sur Jet FM. Bonjour et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, on pose un pied dans l'argile, au cœur d'un marais, avec Au Portant, une création sonore de Amélie Rottler. Bonne écoute sur Jet FM.
Au Portant.
En ce moment, tu vois, c'est la période des gazés, là. Ils sont tous en train de sortir. Les gazés, c'est quasiment les papillons que tu peux attraper à la main. Toi, ils sont vraiment blancs, avec des rayures dans tous les sens, noirs.
Et ils s'appellent comment, t'as dit?
Les gazés. Et période de mois de mai, c'est les gazés, partout. Il y en a partout. Ça vole de partout. Tu vois, il y en a partout autour de toi. Tout ça, c'est que du gazé. Toi, tu devines les chasses, là. Toi, le petit oiseau noir. Il est sur des pattes très hautes là.
Oui, oui.
Tu vois,
oui.
Ça c'est une échasse blanche. Donc là, elle est plutôt, vu qu'elle est que sur une patte et pas deux, je pense qu'elle est plutôt en train de se reposer. Les oiseaux se reposent sur une patte en général quand ils dorment. Et puis tu vois, il y a des petits îlots là, le long de la réserve, enfin le long de, ouais, de la réserve d'eau. Et sur ces petits îlots, souvent, tu as les sternes qui viennent faire leur nid.
Une terre plane et sauvage, balayée par les vents venus de l'océan. Au loin, une petite cabane s'élève. À ses côtés, trois hommes et une femme façonnent leur marais.
Le marais Fèves était dans un premier temps abandonné. Il a été abandonné en 1900, dans les années 60. Il y a eu quasiment un demi-siècle d'abandon et c'est Benoît, entre autres, avec un collègue qui l'a récupéré en 2005.
Quand on récupère le marais aux fèves, on a un marais qui est très partiellement remis en état, mais qui a quand même 20 bassins de récolte là, qui sont structurés au départ.
Et le chemin était totalement inexistant, hein. Il y avait peut-être 20, 30, 40 cm de vase accumulé, donc un marais avec un fond de bassin tout plat.
Tout le reste, donc une grande partie, hein. Il y a 70 bassins possibles sur ce marais-là, donc une grande partie à l'abandon, c'est-à-dire des marais non structurés, aucun quadrillage comme on peut le voir sur les cartes postales, là. Donc plutôt une vasière semi-plate là.
Complètement impropre à être utilisé pour faire du sel. Ils ont commencé à restaurer les premiers bassins.
Et au départ, c'était assez difficile en fait, parce que voir les gars ramener des brouettes d'argile et construire ce chemin d'argile avec des pelles et puis regarder que leurs pieds et puis pas voir le bout du chemin parce que c'est quand même assez long et difficile comme travail quoi. Je me suis dit mais non, mais je vais pas pouvoir faire ça en fait, c'est compliqué. Et en fait, à force de côtoyer le milieu, on se rend bien compte que, mis à part le travail physique, c'est quand même un cadre assez sympathique en fait.
Ouais, il me reste mon petit bout de chemin à faire là. Donc là, la première section sera terminée et quand j'aurai fini.
Un marais endigué comme ça, c'est des digues. Et c'est pas que du minéral, hein. Il y a très vite de la végétation qui s'installe partout. Donc en fait, c'est vraiment une alchimie entre des prairies, quelques bosquets rares, des prés salés, des langues de prés salés qui embrassent un peu les unités d'eau, et puis les unités d'eau, donc les bassins, que ce soit des grands bassins vastes de collecte d'eau, voilà, qui sont nos stocks d'eau préliminaires. Et après, toutes ces unités beaucoup plus resserrées, beaucoup plus étroites, parsemées de chemins partout. Donc là, c'est vraiment le jardin hydraulique du saunier qui va passer son temps tous les ans à redonner un petit peu de baume, à rafraîchir un petit peu, à renforcer tout ce labyrinthe d'argile dans lequel on va faire circuler de l'eau.
Dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que là où on est, il y a une succession de bassins on pourrait comparer ça à un escalier. Donc du coup, avec la première marche qui est ce grand bassin qui est sur notre droite, et la dernière marche sur notre gauche, c'est tous ces petits carrés dans lesquels on va faire la récolte de gros sel et de fleurs de sel.
En fait, lorsqu'on parle de marais salants, souvent on parle de sel, la récolte de sel, mais la récolte de sel, c'est quoi? C'est 20% de notre travail. Hein. La plupart du temps, on est essentiellement un jardinier.
Puisque tout est à échelle humaine, tout est fait au bout de la pelle, au bout de l'outil.
Et donc on va travailler de la vase et de l'argile. Et là déjà, le tableau est beaucoup moins reluisant en général pour les gens. Et c'est là où la sélection va se faire naturellement entre les candidats qui veulent faire ce métier-là, par exemple.
Saunier, c'est de la vie en marais, donc c'est un métier qui se passe dans le marais, et comme toute paysannerie, ben on va produire du sel. Et cet outil qui génère du sel, ça reste un milieu vivant, et ça nous permet, nous, en tant que saunier, ben, d'être aussi cueilleurs, d'être aussi autoconsommateurs, d'être par moments éleveurs.
C'est un métier qui est assez saisonnier, chaque période a une tâche un peu différente, à des actions un peu différentes. Il y a le travail de l'argile, donc voilà, ça c'est un peu la mise en jambe de début d'année, le travail de l'argile, le nettoyage des bassins, la restauration de bassins, de chemins, etc. Et puis, y a la récolte.
On va passer 40 jours, 50 jours, 60 jours, peut-être 70 jours de l'année à récolter réellement. Et tout le reste de l'année, ou du moins au moins 8 mois, à se concentrer à gérer de l'eau en permanence, renvoyer les surplus d'eau, et puis toujours penser à l'avenir, c'est-à-dire à restructurer, restaurer tous nos parties de labyrinthe qui finissent par s'abîmer avec le temps, parce que tout ça est en pâte à modeler, hein, c'est de l'argile.
Je vais aller voir le chantier alors. C'est au
ouais.
fond ?
Ouais, c'est au fond. Pour l'instant, il n'y a personne.
Ah ouais.
Mais tu peux aller voir, il y a Benoît aussi là qui est en train de faire de la manip d'écluse.
Ok, je vais aller voir.
En ce moment même.
Ça voilà. marche ? A tout de suite.
Ouais, à tout de suite.
Et 5 aussi pour la bande des 20 000.
C'est un vrai jeu de patience, en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter les règles dès le départ. On sait qu'on est dépendant de ce que nous propose la nature. Et en fait, chaque année, la météo étant différente, il faut savoir s'adapter et surtout savoir ronger son frein quand la météo n'est pas bonne, tout simplement.
L'après-midi du vendredi 30 juin. Vent. Secteur ouest 4 à 5. Mer. Peu agitée. À agiter.
Et c'est vraiment un très bon apprentissage en fait sur la vie en général, puisque en fait il faut accepter que des fois pendant 15 jours on est bloqué pour pouvoir faire tel ou tel travail. Et il faut accepter aussi qu'une récolte soit mauvaise une année et qu'elle soit bonne l'année d'après, en fait. Donc il faut savoir que des fois la nature est généreuse et des fois elle l'est moins. Et en fait, ça fait partie des règles du jeu. Et en fait, dans la nature en général, ça s'est toujours passé comme ça et tout est une histoire de cycle. C'est-à-dire que c'est tout un jeu de patience. Quand on sait qu'on enchaîne les mauvaises années, on sait que cycliquement, finalement, les années bonnes vont arriver derrière, quoi. Donc il faut jamais s'agacer du sort qui nous est amené chaque jour, quoi. Et c'est souvent ça qui fait craquer la plupart des gens qui veulent faire ce métier-là. C'est-à-dire que quand on sait, par exemple, tous les chemins qu'il va falloir refaire au printemps, que ça représente finalement des kilomètres de chemin qu'il faut faire au printemps, quelqu'un qui va commencer son apprentissage en venant faire 24 heures, 48 heures, donc on va dire 2 jours de travaux de chemin, quand il va se retourner sur son travail, il va se dire « mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. De mars jusqu'à juin, il va falloir que je fasse ça tous les jours. » Alors bien sûr, c'est une caricature, hein, mais la plupart du temps, ces gens-là perdent patience. C'est-à-dire qu'ils se disent « non, ce métier-là, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour moi. »
Je décris ça comme un métier non pas physique dans le mauvais sens du terme, mais c'est un métier sportif qui est plutôt agréable. On est au plein air, il y a les oiseaux qui nous chantent autour, c'est franchement très agréable.
Tu entends la sterne là? Toi, il est en train d'amener une offrande à son partenaire. T'arrives à voir les deux là? Hop là, ça y est, il y en a qui est reparti.
Malgré le côté éprouvant physiquement, on arrive quand même à, d'une saison à l'autre, à faire travailler différents muscles, parce que c'est jamais les mêmes gestes.
Il y a une énergie en fait qui émane du marais, de cette argile, du substrat sur lequel on est. Et au final, bah voilà, des saisons assez sportives, on arrive à les assumer au final assez facilement, c'est peut-être pas le terme, mais voilà, on arrive à les assumer parce que ce contexte est hyper, hyper vivifiant au final pour tout le monde.
C'est un métier où on devient assez vite autodidacte, c'est-à-dire que la théorie c'est une chose, mais c'est bien la pratique qui va forger notre propre expérience, quoi.
L'avironnage, en fait, l'action de faire des vagues autour du bassin avec l'outil, ce qu'on appelle la simouche, donc un outil avec un long manche. Voilà, c'est vraiment le geste carte postale. Et ce geste-là, ouais, c'est pas inné. Il faut vraiment du temps, de la préparation. Il faut manipuler l'argile un petit peu avant pour savoir comment ça réagit.
Et en fait, on va faire coulisser le manche qui est très long au niveau de nos bras, d'une manière et de telle sorte que la vague puisse se créer. Et en fait, et en même temps, il faut retenir quand même son geste pour ne pas justement toucher le fond du bassin. Donc c'est là où ça devient très délicat. Et en même temps, on donne un coup de rein à la fin pour que la vague puisse finir sa course jusqu'à l'autre bout du bassin pour pouvoir ensuite s'avancer progressivement et continuer, nous, notre tour de bassin et faire notre vingtaine, trentaine de vagues pour pouvoir accumuler comme ça tout le sel. Et on a cette magie comme ça qui commence à se faire. Et quand on arrive à ressentir ce phénomène de caresse, de glissade sur le fond du bassin, on est vraiment en symbiose un peu avec lui, sans l'agresser. Eh bien, on arrive comme ça à trouver des moments vraiment très jouissifs, effectivement, puisque petit à petit, on arrive à sortir enfin ce sel. Et on touche le Graal, en fait, finalement, de ce métier, quoi.
Ici, donc, du coup, c'est du gros sel pour la cuisson, et tout ce que vous avez dans les pots, vous pouvez en prendre en vrac, en sachet papier là, que vous avez à disposition.
Vous voulez les 60 ou pas?
Si vous avez deux 60, je veux bien.
Oui, j'ai le même.
Merci. Merci.
Quand je suis jeune, j'ai assez peu de penchant pour le côté jeunesse sociale, on va dire. Je ne vais pas traîner avec... J'ai un tout petit groupe de copains un peu serré. Voilà, une poignée de marginaux, on va dire, dans le collège. On n'est pas spécialement les gens les plus à la mode ou les plus dans le fait des relations là, de gamins entre eux. Du coup, on s'intéresse à réfléchir, à refaire le monde, à caricaturer, à parodier. Voilà, on est dans la BD, dans les films. Et puis, à côté de ça, quand je suis de retour chez moi, je suis vraiment la tête un peu vers le dehors, vers le vivant, vers mes carnets de dessin aussi.
Je me sens vivant parmi en fait tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire vraiment partie de cette vie-là, quoi. C'est-à-dire que autour de moi, il y a de la végétation qui pousse, il y a un sol particulier, il y a des oiseaux qui chantent, qui nichent. On est au rythme des saisons de toutes les manières. Donc en fait, on a l'impression d'être totalement relié à la Terre, mais dans le sens relié à notre planète, quoi. C'est-à-dire qu'on fait partie de ce cycle-là. Et on fait à partie intégrante, on est en harmonie avec la nature, quoi, tout simplement.
J'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'ornithologie, puisque l'ornithologie, les oiseaux, c'est quand même un des groupes dans le vivant qui nous entoure, qui est le plus accessible, qui est le plus abondant. Il y a toujours un cri, il y a toujours un mouvement. Donc c'est assez facile, à raison d'une petite paire de jumelles qui grossit 8 ou 10 fois, c'est assez facile de tout de suite commencer à regarder avec attention tout ça. Donc c'est vraiment les oiseaux qui fait rentrer dans le sujet du naturalisme. Et dès qu'on a collectionné un certain nombre d'espèces d'oiseaux reconnues, maîtrisées, bah on va vite glisser à regarder les plantes.
J'avais besoin de concret, clairement, de faire quelque chose de mes mains, dans un contexte naturel, forcément épanouissant pour moi.
Il était probablement pas imaginable que j'atterrisse à travailler dans un milieu confiné, dans un bureau, dans des choses comme ça. Je trouve ça encore aujourd'hui assez remarquable d'imaginer des gens qui font ça. Par contre, je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que non seulement je me suis pas projeté dans ces métiers-là, mais je me suis pas contre-projeté. Enfin, c'est juste que j'ai jamais imaginé ça. Donc, oui, tu as devant toi effectivement un être complètement naïf là et qui est encore dans la rêverie, encore aujourd'hui, quoi, à faire naturellement ce qu'on a dû faire et ce qu'on pensait bien de faire, parce qu'il y a un peu ce mélange-là entre faire des choses qui nous correspondent et faire des choses aussi qu'on a a priori l'intime conviction que ce soit juste.
J'aime bien les moments où on travaille à plusieurs et puis on travaille l'argile, enfin voilà, on discute, on refait le monde. Ça, c'est des moments que j'aime bien. On travaille sans s'en rendre compte, quoi, clairement. On va à notre rythme.
Et en plus, on n'a pas besoin.
Ça me tient beaucoup à cœur, ce côté entente et rapport, parce que en tant que femme, si j'ai pris aussi beaucoup de temps à m'installer, surtout en milieu agricole, même si c'est pas un élevage classique, une installation classique agricole, à Marais-Salon c'est quand même particulier, j'avais quand même cette peur, surtout en s'installant qu'avec des hommes, de l'image de la femme dans un gaec, en fait. Ça a été un petit peu, personnellement, ça a été une étape, en fait. Il a fallu accepter ça et dire que je peux avoir aussi ma place dans une exploitation où il n'y a que des hommes. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Oui, j'ai trouvé ma place et voilà, je suis avec trois personnes qui sont aussi assez à l'écoute et assez qui me laissent aussi ma place. Enfin, voilà, il y a beaucoup de respect, beaucoup de. Enfin voilà, c'est assez. Il y a une belle énergie, quoi. Et chacun trouve sa part.
J'allais le voir quand même.
Ça fait à peu près cette habitude là. Mais quand on fera du sel, ça sera bon. Ah ben non, c'est des.
Merci.
On va penser que quand on va dans le marais, c'est
bon.
De temps en temps,
sur
la. Ça
va, merci.
C'est bon, ouais.
Anne, Benoît, Mathieu, Damien. Les aigrettes, les avocettes, les hérons, les gazés, les piétons, les cyclistes, les touristes. Et moi, regardons le soleil s'échapper. Dans quelques semaines, le marais se couvrira des couleurs chaudes de la pleine saison. La récolte du sel débutera.
D'écouter Retransmission, l'émission qui donne à entendre des créations sonores indépendantes. Vous pouvez la retrouver en podcast sur jetfm.fr. À la suite, retrouvez Les Détricoteuses, une émission féministe de création et de discussion. Bonne soirée sur jetfm.fr.